Troisième partie. De Luc à Pise, il n'y a qu'un pas. Le temps de dire adieu à cet adorable petit coin de terre, le temps de se préparer à revoir les grands monuments, le Campo Santo, le dôme, la tour penchée. La ville s'est retirée pour laisser plus d'espace à ces trois idées jetées ça et là. Cette tour, qui nous menace de jusqu'à la fin des siècles d'une chute éternelle, cette église, qui se sent de Byzance et qui précède la Renaissance, comme Dante précède Michel-Ange, ce vaste cimetière, qui a dévoré ses morts, laissant intact leur nom et leur gloire, tout ce passé qui repose là et qui se tient debout par la seule force des souvenirs, savez-vous rien de plus poétique? Mais hélas, cette ville de Pise s'est enrichie, peut-on se dire enrichie, d'un autre monument, funèbre. Voyez-vous, sur l'Arno, encore tout chargé des débris de l'orage de la veille, ce vieux palais qui s'avance gravement, les portes en sont fermées, les fenêtres fermées, tout est mystère et silence autour de ces murailles. La petite église de sa Sainte-Épine, ce mignon chef-d'œuvre du grand Nicolas de Pise, semble regarder le sombre palais avec un profond désespoir. Qui que vous soyez, voyageurs, quelle que soit la couleur de votre drapeau, découvrez-vous devant ce palais, car c'est là qu'elle est venue mourir, loin de sa patrie, loin de sa famille, cette jeune, belle et adorée princesse Marie d'Orléans, ce grand artiste. Sur ses bords, dans ses murs, entre ces vieux monuments dont elle creusait tous les secrets, dans le silence de cette ville qui ne vit plus que par les souvenirs, elle est venue s'éteindre jour par jour, heure par heure, cette noble personne que la France avait adoptée d'un amour unanime, cet illustre défenseur de la Jeanne d'Arc, insulté par Voltaire. Malheureuse jeune femme, elle était toute la poésie du château des Tuileries, elle était la popularité incontestable, incontestée de cette famille royale, elle était l'honneur de ce musée de Versailles, ouvert à tant d'œuvres médiocres, elle était l'espérance et l'amie de ses confrères, les artistes et les poètes, qui ne la remplaceront jamais, la ville de Pise, qui ne pleure plus guère, elle a tant pleuré. Elle a pleuré cependant, cette illustre étrangère, elle l'a adoptée comme un de ses martyrs. Maintenant, quand vous passerez par ces rivages, les artistes italiens, ces ingénieux copistes de tous les chefs-d'œuvre, vous offriront la copie du baptistère ou bien la copie du dôme, de la tour penchée, du Campo Santo, ou enfin la main de la princesse Marie, cette main pâlie, effilée, mourante, si remplie d'aumônes et de chefs-d'œuvre qu'elle commençait à répandre. De tous ces souvenirs de gloire et de destruction, est-il besoin de vous dire le souvenir que j'ai choisi? Entendez-vous, voyez-vous là-bas quelque chose qui chante et qui brille? C'est Florence. Enfin donc, je la revois, je la tiens, je l'entends, je la reconnais à son élégant murmure, à sa bonne grâce naturelle, à son hospitalité souriante. C'est bien elle, c'est Florence, la ville de la fête éternelle. C'est la cité neutre où viennent s'ébattre toutes les intelligences vagabondes de l'Europe. Florence, c'est le musée ouvert à tous. Une fois dans ces nobles murs, vous êtes chez vous. Rien ne vous gêne, rien ne vous presse, pourquoi partir? Où donc aller pour être mieux? Où trouverez-vous plus d'esprit, plus de beauté, plus d'effusion, plus de bienveillance? Allons, battons des mains, et s'il se peut, ô mon cœur, contenez-vous. Patience, allons un peu. Nous reconnaîtrons toutes choses une à une. Certes, la Rho arrose toujours les mêmes bords. Certes, le Michel-Ange et le Benvenuto vont encore une fois venir au-devant de vous. Certes, rien n'est changé, ni dans le vieux palais, ni au palais Pitti, digne demeure de ces grands marbres, de ces nobles toiles. l'honneur du génie des hommes dans tous les siècles. Hâtons-nous lentement. Nous retrouverons en entier notre admiration et notre enthousiasme et notre bonheur d'il y a 2 ans déjà. En effet, j'ai retrouvé Florence tout entière, peut-être même plus belle et plus sereine. Car à coup sûr, les arbres des Cassines sont plus touffus, les bronzes des places publiques sont plus durs, les marbres des musées ont gagné peut-être une vie nouvelle. Non, certes, jamais le Michel-Ange n'a été plus grand, jamais le Titien n'a jeté un éclat plus vif, jamais la jeune femme adorée d'André del Sarto ne m'avait paru plus charmante. Oui, vous voilà, toujours enveloppé dans votre beauté éternelle, vous qui êtes la Vénus pudique. Voilà Apollon, debout encore sur son piédestal. À Paris, on le disait brisé par le charlequin. Le charlequin et l'Apollon sont encore les deux gloires de la tribune. La Vénus du Titien est restée transparente et calme comme au premier jour. La Vierge à la chaise et le Léon X sont encore aujourd'hui les plus excellents représentants du génie de Raphaël. À sa place ordinaire, le Salvator Rosa éclate et gronde. Les trois parcs filent encore les destinées des mortels. Cette fois, plus de soie et plus d'or dans ces fils sévères. Le chanvre même de cette trame tressée par Michel-Ange est rude à la vue, rude au toucher. Sur les places publiques s'élèvent aussi haut que jamais les chevaux et les héros de Jean de Bologne. Savez-vous qu'ils ont découvert là-bas un nouveau portrait de Dante, leur fondateur? Il était déjà bien beau, comme le peintre l'avait rêvé. Comme aussi le cloître autant soit peu profane de Santa Maria Novella se parfume encore des plus suaves et des plus coquettes odeurs. Honneur et gloire à Florence! Elle est immuable, elle est immobile, elle se repose dans sa paix et dans son bonheur de chaque jour. Elle a tant payé son tribut aux révolutions passées qu'elle se sent à l'abri des révolutions à venir. Vive la Florence de Dante, vive la Florence de l'Arioste, vive la Florence de Michel-Ange et vive la Florence de Raphaël. Seulement effacez la Florence des Gibelins et des Guelfes. Elle ne veut plus être vive que pour les beaux-arts, pour la sainte poésie, la grande sculpture, pour l'étoile chargée de coule et de génie. Puisque Savonarole est dans le bûcher, qu'il y reste. Nous autres, le soir venu, à la douce clarté de la lampe, nous relirons, s'il vous plaît, les histoires amoureuses du Décaméron. Quand j'arrivais à Florence, la ville entière était occupée d'une heureuse nouvelle. 2 enfants de son adoption, la princesse Mathilde Bonaparte de Montfort et le comte Demidoff, venaient d'être fiancés le matin même. La joie était universelle. Cette Florence, qui a de la sympathie pour toutes les grandeurs, ce riant exil des rois sans trône et sans patrie, s'était éprise d'amour pour la jeune et belle fille de l'ancien roi de Westphalie. Elle l'avait reçu tout enfant dans ses bras, et lorsque l'enfant eut perdu sa noble mère, Florence l'avait adoptée comme sienne. Ainsi la princesse Mathilde avait grâce et avait grandi dans tous les enchantements, ou du moins dans toutes les consolations de l'Italie. Et maintenant, à 18 ans tout au plus qu'elle peut avoir, Mathilde de Montfort n'est pas seulement la plus belle princesse du monde, ce ne serait pas assez dire, elle est tout simplement la plus belle personne de l'Europe. Elle a le front, elle a le regard, elle a la démarche d'un Bonaparte. Elle a les pieds, les mains, la taille, la grâce parfaite, le teint charmant d'une Parisienne. Même quand elle n'est qu'une jeune fille, ravissante et s'abandonnant au bonheur de l'heure présente, regardez-la, et vous trouverez quelque chose de l'aigle qui perce tout au travers de cette 18e année innocente et naïve. Ajoutez qu'elle est la plus noble dame du monde. Par son oncle Napoléon Bonaparte, Et comme il l'eût aimé, le vieux soldat, comme il eût abrité sa tête grisonnante à l'ombre de tous ces printemps chargés de roses. La princesse Mathilde marche légèrement à la tête de la noblesse moderne. Pas une origine nouvelle qui ne se rattache à son origine. Pas un bâton de maréchal qui ne porte ses armoiries. Pas un gentilhomme de l'épée qui n'ait été un des soldats de sa famille. Et en même temps, elle appartient par sa mère à ce que la vieille noblesse a de plus antique et de plus auguste. Figurez-vous cette noble personne, ainsi chargée de cette double auréole, entrant tout d'un coup à Paris par l'arc de triomphe de l'étoile. Cependant, elle n'a jamais songé à de si grandes destinées. Elle a été tout simplement une jeune fille. Elle en a eu la modestie, la grâce décente, l'aimable réserve, le bon cœur. Elle a arrangé ses espérances, non pas selon sa fortune passée, mais selon sa fortune présente. Elle a modéré par son exemple et par sa profonde soumission à la Providence les inquiétudes d'un père qui ne peut pas oublier qu'il a été le frère de l'empereur et que lui-même, il a été longtemps un roi obéi et écouté. Aussi de toute cette grande famille d'illustres exilés, c'est cet enfant qui a porté le plus gèrement ce grand nom de Bonaparte. Elle a jeté, sur tout cet exil, je ne sais quel parfum d'innocence, de jeunesse, qui eût sauvé les Bonaparte de bien des erreurs, s'ils avaient voulu comprendre tout ce qu'il y avait de providentiel dans la résignation ingénue de leurs belles parentes. Et quand enfin, dans cette même Florence, qui est sa seconde patrie, la princesse eut rencontré le jeune homme qui la devait aimer, sa destinée fut accomplie. Elle rendit grâce au ciel qui lui donnait ainsi une grande position dans le monde, sans que ce fût là une position politique. Elle rendit grâce au ciel qui lui ouvrait les portes de la France, de cette France tant aimée, sans appeler à son aide les révolutions et les batailles. Ainsi, satisfaite des chances heureuses de présent, elle laisse aux hommes de sa famille les chances de l'avenir. Toute la ville de Florence a battu des mains à cet heureux mariage. Les deux jeunes fiancés ont paru dans la même loge au théâtre, où des fleurs ont été présentées à la princesse. Et que de bonheur elle avait dans les yeux! C'est là où reste une des plus aimables coutumes de l'Italie, ces fiançailles qui précèdent le mariage. Cet amour à ciel et à terre ouvert est un touchant spectacle. Une fois fiancés, les jeunes gens vont ensemble, bras dessous, suivis d'assez loin par les grands-parents. Ils peuvent se voir et s'entendre tout à l'aise. En France, au contraire, on vous montre d'abord les jeunes filles à marier, tant qu'on peut vous les montrer. Puis, à peine avez-vous l'intention de leur parler de mariage, aussitôt la jeune fille disparaît jusqu'au grand jour du serment solennel. Jusque-là, tout le monde peut la voir, excepté celui qui prétend à sa main, si bien que le malheureux en question fait à vrai dire la plus piteuse des figures. Parlez-moi, au contraire, des fiancés en Italie. Ils arrangent leur vie à l'avance, ils disposent toutes choses pour leur bonheur à venir, ils apprennent à connaître leur caractère réciproque. Ils ne cachent pas leur amour comme un crime, mais au contraire, ils s'en glorifient comme de l'accomplissement d'un devoir. J'ai eu l'honneur d'assister à ces fiançailles presque royales. À la maison de campagne du prince Jérôme Bonaparte, à Quarto, une aimable maison autrefois habitée par M. Thiers, toute la ville s'est portée, les plus grands seigneurs, les plus belles dames et les plus jeunes. Du haut de ces jardins suspendus sur la ville, l'œil enchanté parcourt Florence tout entière, ses jardins, ses dômes, ses campagnes, sa verdure éternelle, son beau ciel, ses sombres monuments, tout ce qui est resté sa poésie, tout ce qui a été son histoire. Et de ces hauteurs, vous descendiez dans les beaux jardins de San Donato du comte de Midoff. Depuis 2 ans, les jeunes arbres sont devenus de vieux arbres. Le palais s'est achevé et complété. Déjà, les vastes salles étaient toutes disposées pour la fête. Déjà, le statuaire et le peintre avaient accompli une grande partie de leur tâche. La maison se remplissait comme par enchantement des plus vieux meubles de la République florentine, ramassés çà et là dans les splendides débris du passé. La royale fiancée elle-même faisait déjà les honneurs de ses salons, de ce palais, de ses jardins, de cette table opulente où venaient s'asseoir les plus grands noms de l'Europe. Dans les bosquets, la musique militaire jouait toutes sortes de mélodies italiennes, sans oublier l'air de Guillaume Tell, « Oh, Mathilde !» Ah, certes. Voilà comment il fait bon être un jeune amoureux. Voilà à quoi tous servent les palais, les marbres, les toiles peintes, les meubles somptueux, les eaux jaillissantes, les diamants, les perles, les chefs-d'œuvre de tout genre. Et surtout, voilà à quoi vous sert l'amour et la jeunesse. Ah, certes, dans un pareil bonheur, on peut laisser toute l'Europe se diviser pour la question d'Orient. Et que vous importe toutes les questions de l'Europe quand vous emportez de toute la vitesse de vos chevaux anglais au milieu de la bénédiction des pauvres, des vers du poète, des vivats de toute l'Italie, à la barbe de tous les princes à marier sur cette terre la plus belle, la plus jeune, la plus charmante, la plus jeune fille de l'univers. Et bien à regret, après 4 ou 5 jours de tous ces enchantements, je quittais Florence. Je la laissais au milieu de ses joies et de ses fêtes. La ville se préparait pour le lendemain à une course de chevaux qui fut brillante et dans laquelle se distingua le beau cheval de M. de Lovenberg. La sortie de Florence est austère et triste. Vous jetez à chaque instant un dernier regard de regret sur cette ville encore endormie. « Adieu, lui dites-vous tout bas. Adieu à ces amis de la patrie italienne toujours prêts à vous recevoir. » Adieu à ces jeunes femmes qui sont restées ou qui sont devenues des Florentines. Adieu à ces grands noms si bien portés. Adieu à ces musées, mais qui sont ouverts la nuit et le jour. Surtout adieu à vous, mon bon et cher Orloff, homme de tant de verve et de tant d'esprit, le plus tendre et la plus franche hospitalité de Florence. Adieu, adieu. Je reviendrai l'an prochain, si Dieu le veut. Personne ne va plus vite qu'un homme triste. Il n'y a rien à voir en son chemin, rien ne l'intéresse, rien ne lui plaît. Il en veut au cheval de poste d'aller si lentement. Hélas, il n'est pas seulement triste de n'être pas arrivé, il est malheureux d'être parti. Le même soir, nous étions à Bologne et nous trouvions que la ville était sombre, que les monuments étaient grêles, que sa tour penchée était misérable. Rien n'allait bien dans la ville, à notre sens. Notre premier soin, ça a été de demander des nouvelles de Giacomo Rossini, qui s'est enseveli, on ne sait pas pourquoi, dans sa mauvaise humeur et dans Bologne. Singulier tombeau! Et j'imagine qu'avec de bons yeux, vous pourriez lire cette inscription funèbre sur la pierre funéraire, tumulaire. Robert le diable par Meyerbeer. Quoi qu'il en soit, Rossini s'est réfugié dans cette ville. Là, il dépense dans la plus misérable des farnientes les restes précieux de ce beau et fertile génie qui en fera à tout jamais l'une des gloires de l'Europe moderne. Là, il vit obscurément, ou plutôt il meurt en détail, ne se doutant guère que le bon Dieu ne met pas au monde des hommes comme lui, sans leur imposer pour condition le travail, l'amour de la gloire, l'obéissance à l'inspiration, la reconnaissance pour l'humanité tout entière, qui répète votre nom avec toutes sortes de louanges. Hélas, cette boutade de Rossini, cet exil volontaire, ce retranchement de la vie publique, Rossini a fini par les prendre au sérieux. Il s'est oublié lui-même dans ce désert. Il a renoncé au bruit du mouvement, aux amitiés illustres, que dis-je. Il a renoncé à la gloire. On le cherche en vain dans tout Bologne. Vous diriez, quand vous demandez où est-il, Où est-il? Que vous demandez un homme mort depuis des siècles? Mais cet homme si riche et qui pourrait acheter sans trop se gêner deux ou trois des principautés souveraines de l'Italie, il a vendu par économie sa maison de Bologne, se réservant une petite place dans les combles, sous le toit, comme il faisait sous le toit du théâtre italien. C'est là qu'il habite lorsqu'il vient à la ville pour acheter lui-même son poisson et ses légumes. Et pas un pauvre ne sait son nom. Et pas une jeune cantatrice ne sait où le trouver quand elle a besoin d'un conseil. Et la France elle-même lui écrirait à genoux pour sauver son opéra qui se meurt, pour lui demander une messe des morts pour son empereur qui revient, ou tout simplement une marche guerrière pour les batailles à venir. La France entière aurait beau affranchir sa lettre à Rossini, elle n'en recevrait pas de réponse. Voilà donc comment elle est payée le temps d'adoration et du grand nom qu'elle a fait à ce grand artiste et de la fortune qu'elle lui a donnée. Passez en revue toute l'histoire, relisez la biographie des poètes couronnés au Capitole, des généraux vainqueurs dans les champs de bataille. Bien plus, faites-vous redire l'histoire des plus belles courtisanes de la Grèce et de l'Italie, quand la beauté était toute une croyance. Et vous verrez que pas un de ces privilégiés de la poésie, de la bataille ou de l'amour n'a été payé et adoré comme l'a été en France Rossini. Nous faisons donc en sorte, nous qui l'avons connu, vu dans sa gloire, de ne pas rencontrer le maître dans Bologne et dans son humiliation volontaire. On nous eût dit « Venez par là, sous les arcades, vous allez le voir », que nous eussions passé de l'autre côté. Heureusement que cette ville du pape possède encore, pour accueillir dignement les étrangers, un hôte affable et bienveillant, dont la gloire va grandissant toujours, un habitant illustre qui est venu se fixer dans cette ville pour lui donner un peu de mouvement et de vie, un être fêté en France autant que l'a été Rossini, et qui doit se souvenir de la France avec orgueil, car il a été logé en plein Louvre. Un musicien, enfin, un moins grand musicien que Rossini, il est vrai, mais dont l'inspiration ne s'est jamais arrêtée, dont l'enthousiasme sortira vainqueur de tous les nuages, divin génie à qui rien ne résiste, qui marche environné d'harmonieux concerts, qui subjugue toutes choses, qui renverse tous les obstacles, d'une beauté éternelle. Cet homme bienveillant, ce pouvoir souverain dans Bologne, ce génie que nul n'a jamais vainement invoqué, vous l'avez déjà nommé sans doute, c'est la Sainte Cécile de Raphaël. Comme aussi nous saluons les trois Caraches, nous respirons à la hâte cette odeur de poésie, de théologie et de médecine. Nous parcourons ce cimetière tout neuf, tout disposé, et qui n'attend plus que des morts. Nous grimpons dans certains greniers de la ville, tout remplis de tableaux à vendre, et que personne n'achète, tristes débris des galeries qui ne sont plus. Et quand nous avons pris congé encore une fois de la Sainte Cécile, nous quittons Bologne, nous traversons le duché de Modène, où la révolution de juillet n'est pas reconnue. C'est bien le cas de s'écrier que l'exception prouve la règle. Nous passons la nuit à Parme, dans une auberge qui place un marbre noir sur sa porte, à chaque tête couronnée ou découronnée qu'il habite, même une heure. Pour le nombre des rois détrônés, en comptant la souveraine de Parme, l'hôtellerie des sept rois détrônés à Venise, l'hôtellerie de Candide ne saurait se comparer à l'hôtellerie de Parme. Nous traversons le Pô dans un bateau mouvant. L'eau était sombre et grondeuse. Nous saluons au loin le port et la plaine de Lodi. Toute notre histoire d'Italie se montre à nous, un peu effacée par les bois, par la verdure et par cette immense culture qui la couvre de son riche manteau. Voici enfin Milan, la ville à la couronne de fer. Oh, ce n'est plus l'Italie tout à fait. C'est un je ne sais quoi d'italien et de français tout à la fois. Très beau, très grand et fort triste à voir. Là, tout se fait en silence, tout obéit et même la fantaisie. Le soldat allemand, le meilleur bonhomme de la terre, devient morose et taquin en Italie. Ce beau soleil lui porte sur les nerfs, cette vivace population l'attriste, toute cette joie l'afflige. Il monte la garde devant des idées, devant des espérances, devant l'avenir. Or, le moyen de se plaire à son qui-vive, quand on s'entend répondre qui-vive, c'est la liberté, qui-vive, c'est l'espérance, qui-vive, c'est l'Italie, qui-vive, c'est l'avenir qui marche et emporte toutes choses. Belle et sainte Italie, comme on l'aime quand on la voit heureuse, comme on l'aime quand on la voit souffrante. Qu'elle est vive dans sa joie, qu'elle est grande dans sa douleur, et comme un peu de liberté lui va bien. À Milan, nous courbons la tête, on nous demande qui nous sommes. Nous disons tout bas notre profession d'écrivain dont nous sommes si fiers. Et quand la police nous vient demander quand partez-vous? Nous répondons en relevant la tête. Oh, tout de suite, rien que le temps de monter sur le dôme à travers toute cette armée de marbre qui se fait encore, mais qui étonnera en quelques jours l'Hosanna in excelsis de la liberté italienne. Ce dôme peuplé de tous les caprices des siècles chrétiens, de toutes les croyances des siècles politiques, ce dôme dont la statue de l'empereur Napoléon n'est pas descendue, même quand elle descendait de la colonne, ce Vando, ce Côme, c'est toute une histoire à écrire, que dis-je, c'est tout un poème, mais laissons ce noble poème se dénouer convenablement dans les régions de l'infini. Ainsi encore, une fois, nous voilà partis. En vain Venise nous réclame et nous appelle de sa vie stridente sous le masque. Nous irons te saluer dans ta misère un autre jour, ô Venise. Nous quittons Milan le même soir, non sans nous raconter toutes les beautés du mariage de la Vierge, ce grand drame de Raphaël, non sans visiter le Léonard de Vinci de la bibliothèque, non sans nous arrêter à cet arc de triomphe du Simplon qui s'appelle l'arc de la paix. À la bonne heure, élevée des arcs de triomphe à la paix. C'est elle qui a sauvé l'Europe. C'est elle qui a protégé, relevé, ranimé, défendu, éclairé toutes ces ruines. C'est elle qui a remis en honneur tous ces chefs-d'œuvre. Elle a tracé ces grands chemins élevés par la guerre et détruits par elle. Elle a aplani les montagnes, comblé les vallées, taillé les marbres. Elle seule peut tout faire. Elle sera quelque jour la liberté. Elle est la paix aujourd'hui. Élevée des arcs de triomphe à la paix. Nous sommes à Turin en 2 jours. Oh, Nice n'est pas loin, mais elle n'est plus sur notre route. Hélas, elle est toute proche, qui nous jette l'âme son souffle embaumé. Ce jour-là, toute la ville de Turin était en rumeur. Pas une chambre n'était vacante dans les auberges. Ainsi le voulait le congrès scientifique. Messieurs les savants, patentés du roi de Sardaigne, s'étaient réunis, non pas pour voir l'Italie, non pas pour s'abandonner à cette facile et transparente oisiveté de la poésie et des beaux-arts, mais, le dirais-je, pour parler, chacun de son côté, de la science. Celui-ci de la géologie, celui-là de l'étoile qu'il a retrouvée, cet autre d'une plante rapportée d'Amérique, cet autre enfin de quelques vieux livres tout poudreux arrachés de la pourriture. Les insensés et les mains gras, comme s'il y avait dans le monde une autre terre que la terre de l'Italie, d'autres étoiles et d'autres soleils que les étoiles et les soleils de l'Italie. Comme s'il y avait quelque part des fleurs plus belles et une autre poésie divine dans les livres. Des savants en Italie, des géologues, des astronomes, des pédants, quelle misère! Des gens qui se réunissent pour discuter, quand ils pourraient tout voir et tout entendre et tout admirer, sans rien dire, les malheureux. Cette fois, en quittant Turin, dites adieu à l'Italie. Vous allez passer bientôt de cette affable et enivrante nature dans une nature austère et quelquefois terrible. Encore quelques pas et vous touchez aux neiges et aux glaces du mont Cenis. Encore quelques pas et tout va disparaître, même les dernières épales violettes dans le gazon attristé. Jamais transition ne fut plus brusque. Vous arrivez à Suse le soir, l'arrivée est triste. Vous frappez à la porte de l'auberge, la porte s'ouvre à regret. L'auberge est maussade, son vin est amer, son hospitalité silencieuse, son lit est froid. La nuit, votre sommeil est inquiet, vous entendez toutes sortes de bruits étranges. Oh, je le crois bien, ce ne sont déjà plus les bruits de l'Italie. Le jour venu, vous voyez tomber sur vous un pâle rayon de soleil, tout blême et tout grelottant, enveloppé dans son manteau de neige. Pour la première fois, vous aussi, vous vous mettez à grelotter. Malgré vous, votre regard attristé se reporte en arrière. Et vous voilà poussant un grand soupir de regret en vous rappelant les arts, la poésie, la beauté, l'amour, les palais, les chansons et le soleil de là-bas. Quoi donc? Moi qui reviens de Nice et de Gênes, de Luc et de Florence, moi qui étais naguère toscan et lombard, il faut que je gravisse ces rudes sommets. Voilà donc là-haut, les neiges et la froidure qui m'attendent. Cependant, on prend son manteau et l'on se remet paisiblement à gravir ces roches pénibles. Quel rocher! Oh, certes, ceux-là n'auront point s'aplanissant sous nos pas comme la rivière d'Orient ou de Gênes. Mais plus vous marchez, plus ils se dressent devant vous, mystérieux, sombres, silencieux. Nous étions encore loin de l'hiver, il est vrai, mais nous parcourions les domaines de l'hiver. Dans ces montagnes, tout appartient à l'hiver, même la fleur dans l'herbe, même le fruit sur l'arbre, même le flot dans le lac. La fleur est pâle et mourante, le fruit est vert, l'eau du lac est glacée. La glace est si près de nous, la neige est si proche. La glace et la neige se sont éloignées de quelques pas à peine, et au premier signal de leur maître et seigneur l'hiver, elles vont découvrir toutes choses, maisons, bergers, fronderières. La vie s'arrêtera tout d'un coup. Tout d'un coup, la vallée sera comblée, et vous n'aurez plus qu'une masse de glace sans mouvement, sans bruit et sans couleur. Ô l'Italie, ô le soleil, ô la couleur, ô l'Arioste, ô Raphaël, ô la Fordarina indivine. Ainsi vous marchez tout le jour, comme marchent les ombres dans Virgile. Le cheval ne hennit plus, le chien n'aboie plus, l'homme ne pense plus. On marche et voilà tout. Seulement, car le bon Dieu est si bon de temps en autre, à l'abri de la montagne, dans le coin le plus catin du coteau, vous rencontrez encore un petit jardin presque verdoyant, un buisson chargé de ses baies éclatantes, une poule qui se chauffe au soleil, et sur le toit de la chaumière, à côté de la transparente fumée, un coq qui chante ses triomphes dont il est étonné lui-même. En même temps, du haut de la montagne, descendent à pas lents d'immenses troupeaux de bœufs, des moutons bêlants, des chèvres capricieuses, des bergers joufflus, les uns et les autres. Ils ont vécu pendant 6 mois là-haut, tout là-haut, au-dessus des glaces et des neiges, dans une herbe épaisse, dans une rosée bienfaisante, sur les bords d'un lac nourricier, heureux, libres et riches, comme on ne l'est pas. Mais en même temps que l'hiver descendait ici, l'hiver remontait là-haut. L'hiver a chassé de leurs pâturages et de leurs toits de chaume ses troupeaux et ses bergers. Aussi faut-il voir l'étonnement et la terreur des jeunes taureaux et des génisses nés près du soleil, sous les doux abris du printemps, et tout d'un coup, se trouvant transportés dans ces sentiers difficiles, au bruit des torrents et des avalanches. Rude journée, cette journée consacrée à franchir la montagne. Mais prenez patience, demain, pas plus tard, je vous conduis dans un beau, bel endroit, peut-être, où le soleil est chaud, où l'air est tiède comme l'eau, où de vieux arbres se balancent doucement sur la mousse épaisse. Nous sommes à Aix, en Savoie. En effet, le charmant village est encore tout habité par les baigneurs. La cavalcade matinale est partie. Chaque sentier est rempli de cris de joie. Le lac transparent est chargé de ses largères barques. Au sommet de la montagne, les anciens maîtres de la Savoie ont choisi leur sépulture. Ce lac du Bourget est une œuvre inspiratrice. Il reflète de la façon la plus calme toute cette belle nature. Et assis sur ses bords, je résumais de mon mieux tout ce voyage. Et je me disais, au souvenir de ces honnêtes enchantements, « Est-ce bien possible, ô mon Dieu, que je sois si heureux? Est-ce bien moi qui me trouve encore tant de bonnes passions dans le cœur ? Moi qui viens de voir tant de chefs-d'œuvre, qui ai traversé tant d'avenues et de paysages, moi qui ai foulé tant de nobles ruines. Le moi d'hier dans les neiges, est-ce donc le moi d'aujourd'hui sur ce beau lac? Que vous dirais-je? Voici Genève et son lac et ses montagnes. Nous saluons le Jean-Jacques Rousseau de Pradier dans son île de verdure. La statue est belle et grande, elle est admirablement placée. Elle a donné une grande popularité à l'artiste des mains duquel elle est sortie. De Jean-Jacques Rousseau, nous allons à Voltaire, mais Voltaire n'a pas de statue à Ferney. La statue de Voltaire est placée sous le vestibule du Théâtre français, où elle manque d'air. Ferney, quelle ruine sans grandeur, sans majesté, quelle misère! Dans ce dernier séjour du plus grand esprit qui ait agité et réveillé le monde, il n'y a rien qui parle ni à l'âme ni au regard. Figurez-vous une ferme mal tenue, la maison est de la plus chétive apparence. La fameuse chapelle élevée à Dieu par Voltaire, Deo Rexit Voltarius, est une grange, ou pour dire plus vrai, un chenil. Vous pénétrez dans un rez-de-chaussée humide et sale, une servante assez éveillée pour l'endroit, vous montre en se moquant de vous un mauvais tableau représentant l'apothéose de Voltaire. Ce tableau avait été commandé par Voltaire lui-même à quelques barbouilleurs du hasard. Mais si l'exécution est exécrable, la pensée n'est pas modeste. Voltaire est conduit au temple d'immortalité par Zahir, Alzire, Mahomet, Mérope, la Henriade, par la pucelle d'Orléans, elle-même, qui certes y met de la complaisance. Chemin faisant, le héros foule ses ennemis. Sous ses pieds, Fréron, Nonotte, patouillait. La chambre à coucher est digne du salon, un lit où je ne ferai pas coucher ma jolie chienne. Une tapisserie de Catherine Legrand, qui devait être une mauvaise brodeur. Des magots médiocres, dont nos marchandes curiosités ne voudraient pas pour 24 sous. Un grand tuyau en terre cuite, représentant, dit-on, un tombeau vide. Et pour compléter ce triste ensemble, un registre de visiteurs, mais un registre si bête que ce serait à faire sortir Voltaire de son tombeau si on ne s'était pas avisé de l'enterrer au Panthéon. « Messieurs, nous dit la soubrette, vous n'écrivez rien sur notre livre ?»«
Et qu'en voulez-vous faire ?» lui dis-je. « Vous avez assez de quoi lire, Dieu merci. »«
Ben, c'est que, messieurs, » ajouta la grillarde fille, « ma jeune maîtresse est là-haut, qui voudrait bien savoir quelle bêtise vous écrirez. »«
Tenez, madame, cette promenade à Ferney, m'a convaincu que la gloire, comme tout le reste, a besoin d'être parée. Voltaire, de son vivant, vaniteux grand seigneur comme il était, pouvait bien se contenter de ces colifichets méprisables. Mais Voltaire mort est logé trop à l'étroit dans ces quatre mauvais murs. Ceci me rappelle un mot innocent de Madame Hamelin, cette femme dont l'esprit était redouté même de l'empereur Napoléon, qui n'avait peur que de l'esprit. J'étais un jour à côté d'elle au théâtre et je lui montrais tout en face de nous une des plus grandes renommées féminines de ce siècle. Monsieur Hamelin regarda la dame avec cette attention maligne qu'elle prête à toute chose, après quoi elle me dit sérieusement: « Mais savez-vous ce que cela prouve? Cela prouve qu'il n'y a pas une seule femme à qui il soit permis de porter un chapeau fané. » 3 jours après, à 7 heures du soir, 2 hommes descendaient de voiture sur le boulevard des Italiens. Au plus éclatant moment de la soirée, à l'instant où tout l'esprit, tout l'argent et tout le vice de Paris s'agitent sur le boulevard. « Que s'est-il passé en notre absence ?» demandaient les deux voyageurs. « Nous venons de Genève en passant par Florence. » À quoi il leur fut répondu: « Mais qu'en êtes-vous allé à Naples pour y rester? Nous avons eu ici un terrible tremblement de terre qui dure encore. Vous auriez été plus en sûreté sur le Vésuve. Ne trouvez-vous pas, madame, que cela en parle bien à leur aise? Le tremblement de terre. Mais la terre tremble-t-elle jamais quand on a tout ce qu'on aime auprès de soi? » Jules Janin.